réparer les offenses. Tournez, s'il vous plaît, dans vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 10. Un objectif élevé, énoncé dans les Écritures, peut devenir une réalité dans notre vie. Cela se trouve au verset 32. Je vais lire ce verset dans la version Second 21. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Wow! Ne soyez une cause de faux pas. Qui que ce soit, quoi qu'il arrive, ce n'est pas facile dans notre monde. Comment faites-vous? Continuez à lire au verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Le Christ est notre exemple de la manière dont il ne faut pas avancer. C'est pourquoi Paul l'a imité, afin de devenir comme le Christ, et nous devrions faire de même. Il ne fait aucun doute que les gens ont parfois été offensés par ce que le Christ a fait ou dit, mais c'est parce que leur querelle était avec Dieu, pas avec le Fils de l'homme. La raison pour laquelle sa conduite n'était pas offensante, et le Christ n'a rien fait par intérêt personnel. Au contraire, le seul avantage qu'il recherchait était celui de son prochain. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Christ a-t-il jugé? Oui, il a jugé. Mais lorsqu'il évaluait, il le faisait en écoutant Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne jugeons pas les autres en les soumettant à des normes légalistes et mondaines. Nos valeurs fondamentales seront basées non pas sur nos propres œuvres ou nos préférences personnelles, mais sur les principes pieux de la parole de Dieu. Notre jugement sera juste lorsque nous chercherons la volonté de Dieu et non la nôtre. Le Christ n'a pas offensé les autres parce qu'il était désintéressé. Le désintéressement est un fil conducteur qui unit les sept premières caractéristiques de l'amour énumérées dans 1 Corinthiens 13. Nous commencerons au verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Réfléchissons un instant à chacun de ces traits de caractère et à leur lien avec l'altruisme. Lorsque vous êtes patient et plein de bonté, vous concentrez-vous sur vous-même? Êtes-vous envieux ou vantard parce que vous pensez à l'intérêt de votre voisin plutôt qu'au vôtre? Êtes-vous orgueilleux ou malhonnête par égard pour autrui? Chercheriez-vous votre propre intérêt si vous étiez prêt à céder à la préférence de votre frère? Pourriez-vous justifier votre irritabilité ou vos soupçons du mal si vous pardonniez activement aux autres? Comment pourriez-vous vous réjouir de l'injustice si vous pensiez à ce qui pourrait profiter à l'autre? Lorsque nous nous réjouissons de la vérité, nous sommes capables de regarder notre prochain comme Dieu le fait, parce que nous regardons d'abord vers Dieu. Il est clair que le Christ a illustré pour nous l'essence de l'amour désintéressé. Cependant, nous savons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cet exemple. Que pouvons-nous faire pour surmonter l'égoïsme et ne pas offenser les autres? Réfléchissez à ce qu'est l'offense. L'Écriture compare l'offense au trébuchement. Ésaïe 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Le trébuchement nous fait tomber. Il peut aussi nous faire tomber dans un piège. Le trébuchement est une expérience commune à tous les hommes. Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Heureusement, notre Dieu nous a délivrés du trébuchement. Psaume 116, verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et en Proverbe 4, verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Dieu est prêt à nous aider à ne pas trébucher. C'est à nous de nous prévaloir de son aide. Nous en apprendrons davantage à ce sujet au fur et à mesure que nous approfondirons la question. Que se passe-t-il lorsque vous vous cognez le doigt de pied ou que vous vous écorchez le tibia contre un obstacle? Cela vous fait mal. Cela vous met en colère. Cela peut même vous faire tomber. Et que dites-vous lorsque vous heurtez cet obstacle? Ah mince! Eh bien zut! Quelle blague! Pas si vous êtes comme moi, vous ne le faites pas. Le fait de trébucher peut changer votre état d'esprit en un instant, et généralement pas dans le bon sens. À ce moment-là, tu ne trouveras probablement pas facile de garder tes sentiments secrets. N'est-ce pas comme une offense? Oui, c'est vrai. En fait, l'Écriture décrit exactement la réaction des incrédules face à la pierre angulaire choisie et précieuse, le Seigneur Jésus-Christ, en 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Pourquoi l'incroyant trébuche-t-il? Parce qu'il désobéit à la parole. Il ne veut pas placer sa confiance en Christ le rocher. Pour eux, la pierre angulaire n'est pas le fondement de la demeure de Dieu. C'est une excroissance qui dépasse et qui les gêne. Ils sont offensés lorsqu'ils la rencontrent, car tout ce qu'ils veulent, c'est la dépasser. Ils préfèrent ne pas avoir affaire à elle. Étonnamment, Dieu, dans sa grâce, a envoyé le Christ pour ouvrir la voie à la croyance, même pour les incrédules. En Romains chapitre 9, au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. On aurait pu penser que le peuple choisi par Dieu, Israël, aurait été celui qui aurait réussi à obtenir la justice que Dieu offrait. Au lieu de cela, c'est lui qui a échoué. Poursuivons dans le verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ce qui était impossible. Et le résultat? Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Ici encore, le trébuchement est comparé à l'offense. La faute n'est pas dans la pierre qui n'a rien fait, mais dans celui qui trébuche contre elle. Comme c'est vrai! Tant de fois, nous maudissons le rocher qui se trouve sur notre chemin, alors que, bien souvent, ce n'est que moi ou Seigneur qui aurait dû faire plus attention et éviter le mal. Dieu merci, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour nous une pierre d'achoppement ou un rocher de scandale. Nous pouvons être reconnaissants de ne pas être couverts de honte en rejetant la précieuse pierre angulaire de Dieu. Néanmoins, parce que nous vivons dans ce monde, nos vies ne sont pas parfaitement exemptes d'offenses. Comme nous l'avons lu plus haut dans Jacques 3:2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques, l'auteur de cette épître, devait avoir une connaissance intime de ses fragilités humaines et en grandit dans la même maison avec le Seigneur Jésus-Christ comme grand frère. La rivalité entre frères et sœurs peut être un défi dans n'importe quelle famille, mais combien plus lorsque les frères et sœurs étaient conscients dès leur plus jeune âge que leur frère allait être le sauveur du monde. Ils ont certainement dû être tentés de devenir jaloux et rancuniers à certains moments. Matthieu 13, au verset 53, nous décrit la situation. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Les membres de la famille de Jésus ont mis du temps à surmonter les obstacles dans leur relation, mais nous ne devrions pas trop les critiquer. Nous trébuchons tous et nous nous sentons offensés de bien des manières, que ce soit à la maison ou dans la vie de tous les jours. Malgré tous nos efforts, nous découvrons parfois que nous avons offensé une autre personne sans en avoir eu l'intention. Il peut s'agir d'un étranger, l'homme de la rue, pour ainsi dire, mais aussi d'un frère ou d'une sœur, d'un conjoint ou d'un colocataire, d'un ami ou même d'un confident proche. Souvent, ce sont les situations qui semblent les plus difficiles à résoudre parce que nous tenons tellement à cette relation. Proverbe 18, verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Lorsque nous provoquons la colère d'un frère, des murs peuvent être érigés, nous empêchant de jouir de la fraternité sans entrave dont nous jouissions auparavant. La faute est peut-être la mienne. Comment puis-je restaurer la relation au point de rétablir la confiance? Jésus nous a montré comment faire amende honorable dans Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même, ce qui est la première chose que chacun d'entre nous peut faire pour éviter de trébucher. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une repentance de salut. Se repentir dans ce contexte, c'est exprimer le regret d'une offense faite à un frère. Lorsque nous reconnaissons un tel manquement, nous clarifions la situation et nous pouvons demander pardon si nécessaire. Jésus a développé ce type de situation dans Matthieu 18, au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il ne peut s'agir d'un péché contre Dieu. Ici, le péché contre un frère est appelé une faute, une offense contre un frère, une rupture dans une relation. Jacques, le frère de Jésus, avait ceci à dire sur le rétablissement des relations face à de telles divisions. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que nous sommes obligés de confesser tous nos péchés à un autre simple mortel. Le contexte de Jacques 5 parle du pardon dans les relations. Admettre notre part de responsabilité dans les torts qui nous opposent. Admettre librement avoir offensé un frère peut ouvrir la voie au pardon et à la réconciliation. Il s'agit d'une vérité puissante à observer pour prendre des mesures pour se réconcilier. Jésus a placé sur nos épaules la responsabilité de nous réconcilier avec un frère offensé. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous ne devons pas rejeter les préoccupations d'un frère comme étant sans importance. S'il a vraiment un problème avec vous et que vous lui avez fait du tort d'une manière ou d'une autre, vous devez y remédier, et pas seulement à terme, mais dans le présent. L'Épître aux Éphésiens souligne l'importance de régler les conflits au fur et à mesure qu'ils se présentent. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quelles sont donc les actions appropriées que nous pouvons entreprendre en vue de la réconciliation? Nous pouvons reconnaître que nous avons dépassé les bornes, exprimer nos regrets pour le mal que nous avons pu faire et admettre notre part de responsabilité si nous avons, d'une manière ou d'une autre, fait du tort à notre frère. Examinons maintenant ces actions plus en profondeur. Reconnaître avoir dépassé les bornes. Que voulait dire Jésus lorsqu'il parlait de péché contre un frère? Relisons Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. De quel type de péché s'agit-il? Le mot grec pour péché, hamartia, est dérivé du tir à l'arc et signifie « manquer la marque ou la cible ». Quelle est donc la cible? Matthieu répond à cette question plusieurs chapitres plus loin. Si vous tournez en chapitre 22, et nous lirons au verset 37. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme c'est simple et comme c'est beau. Le péché, dans le contexte de notre relation avec Dieu, consiste à ne pas l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Le péché, dans le contexte de notre relation avec les autres, et de ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est donc pas si difficile à comprendre après tout. La loi de l'amour régit notre relation avec Dieu et notre relation avec les hommes. Si je manque la cible de l'amour avec mon prochain, c'est un péché contre lui. En comprenant cela, quand la ligne de conduite recommandée est-elle d'exprimer des regrets pour les torts subis? Dans Luc, nous avons lu précédemment que nous devons pardonner à un frère qui a péché contre nous et qui dit « Je me repens », même s'il a fait 7 fois dans la même journée. De quel type de repentir s'agit-il? Le mot grec pour se repentir, metanoeo, désigne un véritable changement de cœur à l'égard d'un frère, non seulement en regrettant son action passée, mais aussi en prenant la détermination de changer pour le mieux. Après avoir reconnu sa faute ou son erreur, on va de l'avant avec détermination et sans plus regret. On tourne la page et on franchit un cap. Retournons maintenant à Luc 17 et au verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Pour en revenir à notre discussion précédente sur les objectifs, que devrions-nous viser dans de telles situations? Celui qui a fait du tort à son frère doit chercher à rétablir la situation. Celui qui a été lésé doit être prêt à pardonner. Nous avons établi les bases de ce qui constitue un péché dans une relation. Manquer la cible lorsqu'il s'agit d'amour et quand il peut être approprié d'exprimer des regrets pour les torts causés à un frère. Mais quand devrions-nous envisager d'admettre sa part de responsabilité dans les torts causés? Il peut arriver que chacun d'entre nous ait fait du tort à l'autre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, chacun doit être prêt à admettre sa part de responsabilité et à pardonner à l'autre. En Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Pour y regarder de plus près, relisons Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quel type de péché ce verset nous demande-t-il de confesser? Jacques nous dit, dans un verset précédent, au chapitre 2, dans le verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. La partialité est l'exemple de péché contre le frère, d'infraction à la loi de l'amour. Ces fautes nous isolent et nous séparent. Jacques nous exhorte à admettre que nous nous sommes fait du tort et à prier les uns pour les autres afin de guérir les failles qui nous séparent. Et que dit-il encore à propos de cette prière? Poursuivons notre lecture dans Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Quelle belle promesse à tenir! Nous avons vu qu'un frère peut pécher contre un frère en manquant la cible de l'amour et que les frères doivent se sentir libres de reconnaître leur faute lorsqu'ils ont tort, être prêts à pardonner à l'autre lorsqu'il est lésé. Pour cimenter la réconciliation, nous prions les uns pour les autres, sachant que notre prière a une grande efficace. Et c'est là que se trouve la guérison, comme c'est édifiant et encourageant. Mais il y a encore une chose. Que pouvons-nous faire pour éliminer les pierres d'achoppement? Comment pouvons-nous éviter les offenses de manière proactive? Comment éliminer les pierres d'achoppement dans nos relations? Peut-être certains d'entre vous ont-ils remarqué un schéma dans lequel, presque sans s'en rendre compte, un mot ou une action, réelle ou perçue, les pousse à offenser une autre personne alors que c'était loin d'être leur intention en l'occurrence. Que se passe-t-il alors? Vous pouvez vous demander contre quoi est-ce que je bute? Il doit y avoir dans notre vie une pierre contre laquelle vous vous heurtez et qui vous offense. De quoi s'agit-il? Souvent, l'obstacle pierreux auquel nous sommes confrontés se trouve en nous-mêmes, dans notre cœur. Nous jugeons les autres. Peut-être avons-nous réfléchi à une injustice réelle ou perçue et jugé les autres en conséquence. Cela les mesure par le légalisme et non par la grâce. Que pouvez-vous faire pour éviter cela? Résolvez les problèmes dès que vous en prenez conscience. Prenez l'habitude de ne pas juger les autres plutôt que de les condamner. Les proverbes nous recommandent d'aller encore plus loin et de chercher à couvrir et à oublier les offenses. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui l'appelle dans ses discours divise les amis. Et en Proverbe 19, au verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons rechercher l'amour et prendre la résolution d'être lent à la colère. Nous pouvons même en arriver à nous enorgueillir d'oublier les offenses au lieu de les poursuivre. Romains 14, verset 13. Et l'appel à l'action pour éviter les offenses. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. L'avertissement est clair. Ne portez pas du jugement. Jugez les autres. Mets une pierre d'achoppement sur le chemin de votre frère. Décidez maintenant d'aider votre frère croyant à se tenir debout et non à trébucher ou à se blesser. Lorsque nous nous associons à Dieu et que nous recevons sa grâce comme une réalité dans nos cœurs, nous commençons à écouter nos frères et sœurs et nous apprenons à les considérer favorablement en raison de ce que le Christ a fait pour eux. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Ici, nous sommes exhortés à ne donner aucun sujet de scandale en quoi que ce soit et à nous rendre à tous égards recommandables aux autres. C'est l'amour désintéressé qui nous permettra d'y parvenir. 1 Jean, chapitre 2, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand sommes-nous le plus susceptibles de trébucher? Lorsque nous ne voyons rien, dans la nuit. Quand n'y a-t-il aucune raison de trébucher? Lorsque nous pouvons voir exactement ce qui nous attend. Comme c'est vraiment libérateur. Nous n'avons pas à trébucher lorsque nous marchons dans l'amour, car nous marchons dans la lumière. Nous sommes en mesure d'éviter les offenses lorsqu'on cesse de juger. Ne se juge pas soi-même et ne juge pas les autres. Et lorsqu'on agit avec désintéressement dans l'amour, considère ton frère en Christ comme Dieu le fait, en regardant d'abord vers Dieu. Comme Jacques, Jude a dû finir par se réconcilier avec son frère né Jésus. Il a fini par reconnaître la vérité et a cru en lui comme son Seigneur et Sauveur. Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Quel changement tangible dans la vie de Jude. Car même si nous trébuchons tous, le psalmiste nous rappelle en psaume 119, 165, je vais lire le verset dans la version second 21, psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. Lorsque nous aimons, nous ne jugeons pas et rien ne peut nous faire trébucher ou nous offenser. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères et sœurs.